6h à Paris, 5h en temps universel.
RFI Matin.
RFI Matin commence tout de suite avec votre journal, Jeanne Bartoli. Bonjour Jeanne.
Bonjour Andréane et bonjour à tous.
Donald Trump assure que les tueries en Iran ont pris fin.
Et le président américain continue d'entretenir le flou sur une éventuelle intervention militaire, indiquant que Washington suit de près la situation alors que le bilan de la répression en Iran s'élève désormais à 3428 morts, selon les chiffres de l'ONG Iran Human Rights. En Iran, en France, un conseil de défense convoqué dans 2 heures maintenant à l'Elysée. Il concernera justement l'Iran, mais aussi le Groenland. C'est une information RFI. Des militaires français vont arriver aujourd'hui dans le territoire arctique pour participer à des exercices aux côtés de 3 autres pays européens. Les Ougandais votent aujourd'hui, présidentiel et législatif, scrutin sous haute sécurité dans le pays. Internet toujours coupé. Yoweri Museveni brigue un 7e mandat après 40 ans de pouvoir. Et puis une finale de Lyon à la Coupe d'Afrique des Nations. L'affiche Maroc-Sénégal. Et ce sera dimanche à suivre évidemment sur RFI.
L'Iran a rouvert il y a quelques heures son espace aérien.
Après l'avoir fermé pendant près de 5 heures sur fond de menace d'une intervention militaire américaine contre Téhéran, Donald Trump s'est exprimé dans la soirée devant des journalistes à la Maison Blanche, affirmant que les tueries avaient pris fin en Iran et que les exécutions prévues de manifestants n'auraient finalement pas lieu. À la question de savoir si une intervention militaire américaine était désormais écartée, il a répondu que les États-Unis allaient observer cela. Le président américain, qui semble donc temporiser après avoir menacé à de nombreuses reprises d'intervenir militairement dans le pays, après une répression inédite du mouvement de contestation qui a fait, selon le tout dernier bilan de l'ONG Iran Human Rights, au moins 3428 morts depuis le 28 décembre. Nicolas Falaise, les informations qui nous parviennent du terrain dessinent un arsenal répressif inédit de la République islamique.
D'abord, la violence extrême exercée dans la rue avec des tirs destinés à tuer des manifestants. C'est ce que montrent notamment les images authentifiées de dizaines de corps dans une morgue du sud de Téhéran. C'est ce que révèlent les récits recueillis par plusieurs médias et ONG auprès de proches de victimes ou de personnel des hôpitaux. Autre étage de la répression, le pouvoir judiciaire qui promet des procès rapides et publics avec la peine de mort que risquent les personnes arrêtées. La justice iranienne ordonne aussi des confiscations de biens pour punir certains accusés. La répression produit ses effets directs, mais elle engendre aussi la peur alimentée par la chape de silence qui s'est abattue sur l'Iran depuis la coupure des communications par le pouvoir. La République islamique avait déjà actionné les mêmes moyens lors de précédents épisodes de contestation, mais le degré de brutalité semble inédit et rien n'indique que des défections ont eu lieu au sein du régime ou de son appareil sécuritaire. La mobilisation des manifestants a chuté au cours de la semaine écoulée face à un pouvoir déterminé à écraser la contestation.
Et hier soir, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré qu'il n'y aurait pas de pendaison aujourd'hui en Iran. Il était interviewé sur la chaîne américaine Fox News.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunira, lui, aujourd'hui au sujet de l'Iran.
Et réunion à la demande des États-Unis, précise un porte-parole de la présidence somalienne du Conseil de sécurité de l'ONU. En France, ce sera dans 2 heures un conseil de défense et lui convoqué à l'Elysée sur la situation en Iran, mais aussi au Groenland. C'est une information des RFI. Face aux menaces d'annexion du territoire par les États-Unis, des soldats français sont en route pour participer à un exercice conjoint sur place aux côtés de soldats allemands, norvégiens et suédois. L'avenir du Groenland qui était en discussion hier à la Maison Blanche. Les ministres danois et groenlandais des Affaires étrangères se sont entretenus avec le vice-président américain J.D. Vance et le secrétaire d'État Marco Rubio. Écoutez le ministre danois des Affaires étrangères Lars Løkke Rasmussen. Il s'exprimait devant la presse à l'issue de la rencontre.
Nous avons eu ce que j'appellerais une discussion franche, mais aussi constructive. Les discussions ont porté sur les moyens d'assurer la sécurité à long terme du Groenland. Et là, je dois dire que nos points de vue continuent de diverger. Le président a clairement exprimé son opinion et notre position est différente. Le Danemark continue de croire que la sécurité à long terme du Groenland peut être assurée dans le cadre actuel, à savoir l'accord de 1951 sur la défense du Groenland et le traité de l'OTAN. Pour nous, les idées qui ne respecteraient pas l'intégrité territoriale du Royaume du Danemark et le droit à l'autodétermination du peuple groenlandais sont bien sûr totalement inacceptables. Nous avons donc toujours un désaccord fondamental, mais nous acceptons le fait de ne pas être d'accord. Nous continuerons à discuter. Nous avons décidé de former un groupe de travail de haut niveau afin d'étudier la possibilité de trouver une solution commune. Selon nous, ce groupe de travail devrait se concentrer sur la manière de répondre aux préoccupations américaines en matière de sécurité, tout en respectant les lignes rouges du Danemark.
Le ministre danois des Affaires étrangères.
À la une de ce jeudi également, les États-Unis qui annoncent l'entrée dans la deuxième phase du plan américain visant à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza.
Une annonce faite après l'accord trouvé hier entre les mouvements palestiniens pour la formation d'un comité transitoire de gouvernance pour Gaza. Des négociations avaient lieu en Égypte. Nous serons en direct de Jérusalem pour faire le point dans le journal de 7h.
RFI à Kampala, 93.7 FM.
En Ouganda, les bureaux de vote étaient censés ouvrir il y a une heure.
Oui, quelques bureaux ouverts, mais d'autres ont pris du retard. 21 millions d'Ougandais sont appelés aux urnes aujourd'hui, contexte très tendu. Pour ce double scrutin législatif et présidentiel, Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 40 ans, est candidat pour un 7e mandat. Face à lui, le chanteur devenu figure principale de l'opposition, Bobi Wine. Internet a été coupé dans tout le pays. Le haut commissariat de l'ONU aux droits de l'homme s'est dit profondément inquiet par la restriction d'Internet et la suspension également de 10 ONG dans le pays juste avant ce scrutin. Le National Democratic Institute, ONG américaine, se dit elle aussi inquiète de la situation. Écoutez, Jemima Barlow, elle est directrice Afrique de l'Est et Australe.
La suspension d'une dizaine d'organisations de défense des droits civiques, de défense des droits de l'homme ou de lutte contre la corruption est un signal inquiétant. Certaines de ces organisations allaient déployer des observateurs durant le scrutin. À cela s'ajoute la liberté de la presse qui est de plus en plus limitée, la coupure Internet juste avant le scrutin, ainsi que les restrictions imposées à certains partis politiques et l'intimidation de leurs candidats. Tout cela montre que l'espace public est de plus en plus restreint. Bien sûr, cela va avoir un impact sur les élections car une remise en cause du travail des observateurs indépendants est une remise en cause de l'intégrité du processus électoral lui-même. Les observateurs ne pourront pas suivre et documenter toutes les étapes du scrutin, ce qui peut saper la confiance du public dans ces élections. Nous verrons quel sera le taux de participation, mais le fait d'empêcher ces organisations de faire leur travail envoie un signal très clair, cela a un effet dissuasif.
Jemima Barlow du National Institute, Democratic Institute, au micro d'Alexandra Branjon. La présidentielle en Ouganda entre fractures générationnelles et tests de confiance. Article sur les enjeux de cette journée à retrouver sur notre site RFI.fr. En plus bref, en Ukraine à présent, le président Volodymyr Zelensky annonce son intention de décréter un état d'urgence pour le secteur énergétique mis à mal par une série de frappes russes massives. Des travaux sont également en cours pour augmenter significativement le volume des importations d'électricité de l'Ukraine, a ajouté Volodymyr Zelensky.
RFI 6h08 à Paris, en France, on est à 2 mois du premier tour des élections municipales.
Et la campagne s'emballe, notamment à Paris, le candidat de l'Union de la Gauche hors France Insoumise, Emmanuel Grégoire, a tenu hier soir son premier grand meeting. S'il est pour l'instant en tête des intentions de vote, le socialiste est talonné par sa principale adversaire, la candidate de droite et ministre de la Culture, Rachida Dati. Reportage Aurélien Devernoy.
C'est l'affluence des grands soirs. Le lieu réservé pour le meeting d'Emmanuel Grégoire est plein et des dizaines de personnes ne vont pas pouvoir rentrer. Alors le candidat prend un mégaphone.
Profitez-en pour faire du porte-à-porte en rentrant.
À l'intérieur, le communiste Yann Brossa chauffe la salle avec une cible prioritaire.
Vous savez, il y a un concept dont on ne parle pas assez, c'est la date hypocrisie.
Emmanuel Grégoire n'épargne pas non plus sa rivale des Républicains, accusée de préparer une alliance avec la liste Reconquête, le parti du polémiste d'extrême droite Éric Zemmour.
Je leur dis avec détermination, Paris ne sera pas votre labo facho, nous ne laisserons pas faire, vous ne passerez pas.
Contre un projet qu'il qualifie d'obscurantiste, le socialiste défend, lui, l'ouverture.
À l'étudiant qui cherche désespérément un logement, à l'assistante maternelle qui est née à l'étranger et qui est venue à Paris pour travailler, au bénévole qui donne de son temps pour aider les autres. Paris est à vous. vous.
Pas un mot en revanche des Insoumis qui présentent une liste rivale. L'ancienne LFI Daniel Simonet appelle les électeurs à la raison.
Si c'est pour que ce soit Dati qui passe, quelle aberration, autant eh bien soutenir dès le premier tour.
Car Emmanuel Grégoire doit creuser l'écart dès le premier tour pour espérer l'emporter. La droite dispose en effet de plus de réserves de voix. Il est pour l'instant au coude à coude dans les sondages avec Rachida Dati.
Le reportage d'Aurélien de Vernois.
Et puis c'est l'une des informations principales du jour, Jeanne, le Maroc en finale de sa CAN.
Oui, les Lions de l'Atlas ont arraché leur qualification pour la finale de la CAN au tir au but hier soir à Rabat face au Nigeria. Les Marocains qui affronteront le Sénégal en finale, ce sera dimanche. Les Lions qualifiés pour leur troisième finale en quatre éditions grâce à Sadio Mané, buteur à la 78e minute face à l'Égypte. Écoutez Pape Thiaw, le sélectionneur sénégalais hier.
On avait la maîtrise, mais après, face à une équipe qui défend bien, qui aime défendre surtout, et qui a deux grands attaquants qui peuvent nous faire mal à tout moment, il fallait garder cet équilibre. Et les joueurs ont respecté ça, et après, on avait la maîtrise du ballon. On avait un tout petit peu pour leur faire sortir leurs centraux et aller leur faire mal. On savait qu'en jouant en profondeur sur les côtés, ça fait sortir les centraux, et on a pu le faire.
Le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw, Sénégal-Maroc, l'affiche donc de la finale. Et c'est à suivre, vous le savez, sur RFI dimanche 19h en temps universel.
Enfin, du cinéma, Jeanne, avec Palestine 36 sortie dans les salles françaises hier.
Anne-Marie Jassir, figure majeure du cinéma palestinien, signe son film le plus ambitieux, une fresque politique sur la révolte arabe en Palestine à l'orée de la Seconde Guerre mondiale. La réalisatrice pointe du doigt la responsabilité britannique dans le conflit israélo-palestinien actuel. Elisabeth Le Carré. Avec ce nouveau film, Anne-Marie Jassir remonte à la matrice du conflit israélo-palestinien, l'occupation britannique. Nous sommes en 1936, la déclaration Balfour a promis aux Juifs fuyant l'Europe un foyer national et les Palestiniens se voient brutalement expulsés de leurs terres par les nouveaux arrivants.
Is it the right of the English to distribute the land as they like?
Land registration will protect you.
Le film suit Youssouf, jeune paysan pris dans la tourmente face à l'arsenal répressif mis en place par les colons britanniques, checkpoints, quadrillage militaire, collaboration forcée et destruction de villages. Palestine 36 a été rattrapée par l'histoire. Prévu en octobre 2023, le tournage est interrompu par la guerre à Gaza et relocalisé en Jordanie. Primé au Festival de Toronto, candidat palestinien aux Oscars, le film arrive en salle porté par son message et sa nécessité historique, celle de montrer qu'entre 1936 et 2026, le système n'a pas évolué, seul l'occupant a changé de drapeau.
Voilà, Palestine 36 sortie dans les salles françaises hier, c'était Elisabeth Le Carré. Merci Jeanne, Jeanne Bartoli pour le journal sur RFI. À Paris, il est 6h13. Et à vous qui nous écoutez, bonjour et bienvenue. On sait que la nuit a été courte si vous êtes marocain ou sénégalais, mais on espère que vous êtes quand même en nombre avec nous ce matin après les demi-finales de la CAN hier.
Très content, on est très très content, vraiment. Vraiment, on n'a même pas les mots.
Voilà, ça c'était à Dakar hier soir, reportage de notre correspondante permanente à écouter dans le journal de 7h, la joie après une délivrance face au pharaon signé Sadio Mané. On ira aussi écouter bien sûr la joie des Marocains, les hôtes de cette CAN qualifiés pour la finale, quoi de mieux. Reportage dans les tribunes côté Lyon de l'Atlas à écouter dans le journal de 8h30 et puis bien sûr nos journaux de la CAN avec Christophe Diremzian à suivre toutes les heures sur RFI. Quoi d'autre ce matin? Eh bien l'Iran toujours. Et ces déclarations mystérieuses de Donald Trump, encore les tueries ont pris fin, assure le président américain, qui ne ferme toutefois pas la porte à une intervention américaine. On suivra ça et on appellera notamment Siavosh Ghazi à Téhéran dans le journal de 7h. Ensuite, à 7h20, ce sera notre grand invité international sur RFI. Bonjour Guilhem Delteil.
Bonjour Andréane.
Aujourd'hui, vous appelez Lucas Chancel, professeur d'économie à Sciences Po. Il a écrit le livre « Énergie et inégalité, une histoire politique ».
Oui, avec lui, nous évoquerons l'accès à l'énergie et aux matières premières comme un outil de puissance en enlevant le président vénézuélien Nicolas Maduro. Donald Trump affirme avoir obtenu l'accès aux énormes réserves de pétrole du pays. Il veut aussi prendre le contrôle contrôle du Groenland, dont les sous-sols sont aussi riches, les États-Unis l'ont répété hier soir. Alors sommes-nous dans un monde où la quête des ressources énergétiques dicte toute forme politique et pourquoi? Ce sont des questions que nous poserons à Lucas Chancel tout à l'heure.
Et ce sera à 6h20 en universel. À tout à l'heure, Guilhem. Autre invité ce matin, Christian Moleka, coordinateur de la dynamique des politologues du Congo, la DIPOL. On parlera avec lui de ce sommet prévu samedi à Lomé pour parler de la situation dans l'est de la RDC. Au programme aussi ce matin, l'Ouganda, séjour de vote.
Et il avait un grand chapeau, avec une petite tête dedans, des oreilles en forme de chou, et en dedans des poils tout blancs, une grosse barbe, une moustache, et de longs cheveux grisonnants, des yeux mouillés et attristés, comme on en croise de temps en temps. Une petite pièce, s'il vous plaît, pour le clochard de la rue du Caire, un pauvre euro pour le clodo, qu'il sachait de quoi prendre chaud. Une petite pièce, s'il vous plaît, juste quelque chose à bouffer, un pauvre euro pour le clodo, rêvant de se jeter un bon vin chaud. Il avait pourtant la bonne mine quand il était chef d'entreprise, vêtu d'un beau costard cravate, il n'était pas trop diplomate. À celui qui tendait la main, lui répondait, demande au voisin. Maintenant qu'il est sur le trottoir, c'est une autre histoire. Tous ceux qui furent ses semblables, le fusil du regard, il use de larmes et de grimaces pour le leur jeter en pleine face. Une petite pièce, s'il vous plaît, pour le clochard de la rue du Caire, un pauvre euro pour le clodo, qu'il s'achète de quoi prendre chaud. Une petite pièce, s'il vous plaît, juste quelque chose à bouffer, un pauvre euro pour le clodo, rêvant de se jeter un bon vin chaud.
Le chemin d'un vieux gitan le manche à la main, qui lui dit viens donc au comptoir, que je montre un tour de guitare. Depuis il serpente les rues, depuis il gratte à corps perdu, sur tous les quais et les trottoirs, mendiant leur petit coup à boire. Une petite pièce, s'il vous plaît, pour le clochard de la rue du Caire, un pauvre euro dans le chapeau, pour un dernier petit vin chaud. Une petite pièce, s'il vous plaît, juste quelque chose à bouffer, un pauvre euro pour le clodo, rêvant de se jeter un bon vin chaud.
Je viens de la France où on danse la chenille, où on prend plus de caisses que des crash tests demi. J'ai des potes diplômés, d'autres qui ont pas lu de livres, qui sont sûrement sur un mur et dans les rues du centre-ville. Mon père a gravi l'échelle pour devenir ce qu'il voulait être. Ma mère est la ménagère à qui les publicitaires veulent la mettre. Je connais la campagne et ses gros sabots, où ça vole pas haut, les ragots et les oiseaux. Toujours autant de pluie chez moi. Toujours autant de pluie chez moi. Mais il fait quand même beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau, chez moi il fait beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Chez moi il fait beau. Je viens de la terre du milieu, où y'a plein de petits vieux, où le chômage est la tisane. les ânes forment un cercle vicieux où on critique les invités qui viennent de partir. C'est pas qu'on est lent, c'est qu'on prend notre temps pour réfléchir. Je suis de la classe moyenne, moyennement classe. Où tout le monde cherche une place, je suis bien clair dans le monospace. Je freestyle dans ma tête sur le bruit des essuie-glaces. Y'a la pluie en featuring dans toutes mes phrases. Toujours autant de pluie chez moi. Moyen du soleil 40 jours par an. Tu peux passer la plupart de l'année à l'attendre. Je regardais par la fenêtre enfermée dans ma chambre. Je priais pour la fin de l'inverse et aller faire de la rampe. Je connais que le bruit de la pluie, l'odeur du béton mouillé. Si je suis parti, c'est parce que j'avais peur de rouiller. Trempé, j'aurais jamais pensé que le mauvais temps finirait par me manquer. Il fait quand même beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Chez moi il fait beau. Autant de pluie chez moi. Toujours 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 autant de pluie chez moi.
j'adore.